Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Aignot et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode, aujourd'hui avec Jean-Louis Etienne. Comment vous décrire Jean-Louis ? Un explorateur, un amoureux de la nature, un esthète, un poète peut-être, un visionnaire ? Une description plus factuelle serait de vous dire que Jean-Louis est médecin et explorateur français, connu pour ses expéditions en Arctique. Il a notamment été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986. Il a aussi fait des expéditions en Antarctique, avec en particulier la Transantarctica, pas facile à dire, réalisée entre 89 et 90. Jean-Louis m'a accueilli chez lui pour parler de sujets qui tournent autour de son enfance, notamment parce qu'avec des troubles de l'attention non diagnostiqués, il a dû quitter l'école très jeune pour devenir d'abord ouvrier. Mais finalement, il a réussi, par les hasards de la vie et beaucoup de travail sans doute, à devenir chirurgien. Il revient ensuite à ses premières passions, l'exploration, qu'il vit pleinement encore aujourd'hui, après 80 ans. Vous l'aurez compris, Jean-Louis Etienne est un vrai personnage et je crois que cet épisode émouvant à bien des moments traduit plutôt bien sa personnalité. Un homme entier, un brin poète et passionné. Si vous souhaitez le soutenir dans sa démarche et son travail, commencez par lui dire tout le bien que vous pensez de lui sur ses comptes Instagram, Twitter ou LinkedIn où il est actif. Je suis sûre qu'il vous en sera très reconnaissant. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Pauline.
Merci mille fois de m'accueillir chez vous, dans votre univers. C'est un grand privilège. Jean-Louis, j'ai étudié votre parcours, vous voyez, j'ai plein de feuilles écrites devant moi sur votre vie. Il y a tellement de choses que vraiment ça n'a pas été évident de commencer, mais alors je suis tombée sur une anecdote qui m'a intéressée, je me suis dit que je voulais commencer par là. J'ai vu que vous êtes un amateur de la pratique de l'auto-confinement, si je ne me trompe pas. J'ai lu ça. Que vous aimez vous auto-confiner, c'est-à-dire passer du temps seul.
Ah oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Non, dans le terme auto-confiner, ça veut dire vraiment que c'est une punition.
Bah oui.
Quoi, hein. Si je me confine, effectivement, dans le sens où vous le dites, c'est passer du temps avec soi. Et j'en ai besoin. J'en ai besoin, vous voyez, de solitude. La solitude, mais elle m'est nécessaire. Et je suis. J'aime quand je n'ai aucune contrainte et que je peux consacrer, laisser aller les pensées. J'en ai besoin depuis tout petit d'ailleurs. Je fais ça sans. Il n'y a pas de rituel. C'est spontané, ça vient. Là. Donc j'aime la solitude, mais j'aime aussi le groupe, souvent, parce que j'ai fait beaucoup d'expéditions en solitaire. Mais j'ai fait beaucoup d'expéditions en groupe, donc j'aime les deux, espèce d'alternance, mais la solitude, je n'ai un besoin quotidien.
Et la solitude ne vous a jamais fait peur, vous justement qui avez fait des expéditions en solitaire pour des durées très longues ?
Non, la solitude ne m'a fait... Ce que j'aime dans la solitude, en expédition, il y a une intensité. Vous voyez, vous avez tout repose sur vos épaules, le choix, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on y va, est-ce qu'on accélère, est-ce que... Voilà, toutes ces questions-là qu'on se pose en expédition. Est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est dangereux, j'attends, je ne maîtrise pas. Voilà, il y a une espèce d'intensité que j'aime beaucoup. Et une illustration de cette intensité, de la solitude. Donc, je suis allé tout seul au pôle Nord, 63 jours, en tirant mon traîneau, en 1986.
Premier au monde, en plus.
Oui, premier au monde, oui. En 1986, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone. Donc, c'est une intense solitude. Il n'y a rien qui rappelle. Il faut comprendre que le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Donc, vous marchez sur une croûte de glace qui s'appelle la banquise, qui est extrêmement chaotique. Et, Et jamais personne n'avait fait ça, bien sûr, avant moi, solitaire, mais les seuls qui avaient réussi à atteindre le pôle Nord, comme je l'ai fait en tirant mon traîneau à ski, c'était 2 ans avant moi, 4 Norvégiens. Donc des Norvégiens qui sont des connaisseurs du secteur. Et donc, tout ce qui m'avait précédé, abandonné au bout d'une semaine, un truc comme ça. Au départ, au 3e jour, j'ai eu moins 52 sous la tente. Voilà.
Et donc, sous la tente, donc
c'est pas du ressenti, c'est au thermomètre.
Oh là là.
C'est au thermomètre. Donc, j'étais déjà un super campeur, vous voyez, quand j'étais au pôle Nord. J'avais connu déjà des tempêtes en mer, j'avais connu des bivouacs en Himalaya, etc. Donc, j'avais une certaine accoutumance. Voilà. Et donc, pour revenir à la solitude, je savais que j'entrais en hypothermie lente, c'est-à-dire la température du corps. Et de temps en temps, je faisais des tables de multiplication. On est réveillé tout le temps par le froid. Et des tables de multiplication qui donnent un certain niveau de conscience, vous voyez. Visualiser une table de multiplication, trouver la réponse. Et donc, j'aime dire, et je crois que c'est vrai, j'ai réussi parce que j'étais seul. Parce que si on avait été deux, il y en aurait au moins un des deux, peut-être moi, qui aurait commencé à dire, là, on est à la limite de ce qu'on peut endurer, quoi. Et on aurait pu peut-être abandonner, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans la solitude, dans l'engagement seul, on va chercher des ressources que l'on ignore de soi. C'est ça qu'on découvre quand on s'engage très loin. Donc la solitude n'est pas forcément une contrainte, ce n'est pas une solitude d'abandon, hein. C'est une solitude choisie, et donc on compose avec.
C'est assez incroyable, et rien que cette anecdote de la table de multiplication pour garder en fait son esprit, tout simplement,
oui, oui.
Je trouve ça fou, parce que c'est vrai, quand on peut imaginer 63 jours seul dans le froid, on peut complètement perdre, on va dire, son corps, quoi. Enfin, dans ce genre de cas, je peux imaginer qu'il faut se battre pour juste résister à la tentation de s'endormir dans le froid.
Oui.
Quels ont été pour vous les facteurs clés de succès, enfin, la raison pour laquelle justement vous n'avez pas abandonné au-delà de cette solitude, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à tenir là où personne avant vous n'avait réussi à le faire ?
J'étais extrêmement motivé. J'avais, avant d'aller seul au pôle Nord, j'avais quand même pendant une bonne douzaine d'années fait des expéditions en Himalaya, à l'Everest, j'avais fait la course autour du monde, à la voile, j'avais beaucoup navigué. Donc, j'étais un super campeur. Vous voyez, c'est ça que je veux dire.
Vous n'êtes pas parti à l'improviste, je décide
non,
de partir.
Non, c'était très, très étudié. C'était très étudié, mon truc. Et puis, ce n'est pas technique d'aller au pôle Nord au sens où tirer un traîneau, on n'a pas besoin de faire des stages. Vous voyez, vous accrochez à la taille, c'est instantané. Donc ça m'allait bien. Ensuite, il y avait les conditions. Et j'avais une envie folle d'y aller. Et vous voyez, cette idée, elle est venue à la face nord de l'Everest. Donc j'étais médecin dans une expédition. Il y en avait 3 qui étaient bloqués au camp 6 à 8000 mètres. Et ça faisait 3 jours qu'ils étaient là. À 8000 mètres, on ne vit pas longtemps, quoi. Donc j'étais très en souci. J'étais monté au camp 2 avec de l'oxygène. J'attendais. J'étais sous une tente à l'abri. Et je me suis dit, j'avais 38 ans. Et je me suis dit, avant 40, il faudrait quand même que je fasse mon expédition, vous voyez. Mon Cap Horn à moi, mon Everest à moi, vous voyez. Et le pôle Nord est arrivé comme une évidence dans ma tête. Et j'ai eu ce sentiment que ma trajectoire de vie devait passer par le pôle pour terminer cet accomplissement, ces rêves d'enfance de faire des expéditions. Et donc, j'ai été habité par cette expédition. Et le plus difficile, donc vous partez avec un rêve, ça dure 2 ans, la préparation. J'ai tendance à dire que la préparation, c'est la meilleure préparation psychologique en même temps, parce qu'on est dedans sans arrêt. Et puis, il faut y aller. Et puis, vous êtes déposé au nord du Canada, parce que c'est là que je suis parti, devant moi, un océan chaotique. Parce que la banquise est très chaotique, elle vient s'écraser au nord du Canada. Il faisait moins 48 quand l'avion me dépose. Et donc, tout d'un coup, j'ai compris que je m'étais inventé quelque chose qui me dépassait, quoi. Vous voyez ? Et donc, j'ai résisté à la tentation de l'abandon. Je n'ai pas été loin d'abandonner. C'était ambitieux, mon projet. J'avais cette ambition de réussir ça. Et tellement ambitieux que je me disais de temps en temps, si tu pouvais te casser une jambe, vous voyez, ce rêve de revenir pour une bonne raison, vous voyez, pas de dire j'abandonne, c'est trop difficile pour moi, quoi, il fait trop froid ou je sais pas quoi. Et petit à petit, j'ai appris une formule, remettre le rêve à la surface.
Remettre le rêve à la surface. Se rappeler pourquoi vous vous aviez fait.
Oui. Mais d'une manière générale. Remettre le rêve à la surface, parce que des fois, on a une idée, on commence à la construire, on s'y engage. C'est pas ce que j'avais imaginé, c'est un peu dur, parce qu'on se cherche une fuite, en fait, quoi. Et ça, c'était vraiment une trajectoire à laquelle je tenais. Et donc, à un moment donné, je me souviens de l'image qui me traverse la tête. Je dis, t'es ce petit bonhomme, tout seul. Je m'imaginais comme ça, vu d'en haut, ce petit bonhomme tout seul qui va au pôle Nord. Donc, ça, on entre dans un parcours très mystique, quoi. Vous voyez, vous faites appel à des forces extérieures à vous-même. Mmh. Je demandais le passage au dieu du pôle, quelque chose comme ça, des images qui me reviennent. Parce qu'il n'y avait aucune communication avec le monde. J'étais un apesanteur du monde totalement, quoi. Hein. Voilà, donc ça a été extrêmement constructif parce que, bien sûr, j'ai réussi à atteindre le pôle.
Quand vous dites remettre le rêve à la surface, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous pourriez expliciter comment est-ce qu'on fait pour remettre le rêve? Comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas perdre de vue sa mission? Parce qu'en plus, vous, là, c'était le cas dans le cadre du pôle, mais je sais que vous êtes un homme de mission et que vous avez énormément travaillé toute votre vie sur les sujets environnementaux. Mais parfois, quand c'est tellement dur, quand ça prend beaucoup de temps aussi, on a juste envie d'abandonner ou on se dit, bah, finalement, non, c'est pas fait pour moi. Comment est-ce que vous faites pour garder le rêve aussi vif dans votre esprit?
Ça, c'est un peu l'expérience, effectivement, qui me fait dire que quand on, y a quelque chose qui est précieux, j'en fais une analyse aujourd'hui, si vous voulez, c'est l'idée, l'envie, l'idée. Un truc qui vous traverse, mais plus que... pas quelque chose d'éphémère comme ça, mais ce sentiment que vous avez envie de faire ça, que c'est peut-être quelque chose que vous, vers lequel vous allez vous engager. L'idée, c'est extrêmement, extrêmement précieux. Et ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais c'est quelque chose qui s'est passé en vous, c'est un peu comme une rencontre amoureuse, c'est une chimie, vous voyez, qui se passe, quoi. Et donc, je sais d'expérience parce que j'ai abandonné des choses aussi. Et je sais d'expérience que l'abandon est une frustration. Mmh. Avec le temps, je sais ça. C'est une frustration. Et en fait, on va choisir autre chose. Et on va rencontrer les mêmes difficultés. La persévérance, ça s'apprend sur le chemin. Vous voyez, si c'est difficile, vous allez changer de chemin. Enfin, ça dépend, bien sûr, mais je parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez changer de chemin et puis vous allez être de nouveau confronté à cette tentation d'abandonner, d'aller chercher autre chose. Moi, quand je parle de mes expéditions, on me dit, pour vous, ça a l'air facile, vous avez la passion. Mais la passion, c'est comme le feu. Vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête. Mmh. Et les bûches, elles ne sont pas au fond du jardin, des fois. Vous voyez, il faut aller vraiment loin les chercher. Mais je sais que c'est comme ça que l'on arrive à un moment donné au dernier pas vers la conquête de ce que l'on s'était imaginé. Et c'est comme ça qu'on se construit. On ne se construit pas sur une multitude de choses qu'on a entreprises et qu'on a abandonnées en cours de chemin. Et donc, cette expression « remettre le rêve à la surface », elle ne m'est pas venue au pôle Nord, mais je me regarde avec un recul de presque 40 ans. Et j'ai fait ça, en fait. À un moment donné, je me suis dit « mais c'est une chance ». Je me disais à moi-même « mais tu as de la chance. Tu es sur un chemin que tu t'es inventé. Même si tu n'arrives pas, au début, je faisais 1 km à l'heure ». Et le temps était compté. Il faut partir début mars, c'est-à-dire quand les journées commencent à revenir, qu'on y voit. Et il faut arriver avant la débâcle de la banquise, c'est-à-dire maximum les premières semaines de mai. Donc les jours sont comptés. Et donc je me rendais compte que je n'allais pas assez vite. Et je me disais, je n'y arriverai jamais. Donc ce qui me donnait la tentation d'abandonner. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, tu fais ce que tu peux, tu es sur cette route-là que tu t'es inventée. Voilà. C'est comme ça que j'ai... Et à un moment donné... On entre, à un moment donné, j'aime dire que je suis devenu ce polaire, vous voyez, vous faites partie du décor, quoi. Mm. Et là, il y a une certaine jouissance qui arrive.
Est-ce que vous avez douté de vous à un moment donné, au-delà de l'abandon, dans la constitution du projet, douté que vous étiez la bonne personne? Est-ce qu'à un moment donné, ou peut-être pour une autre expédition ou dans votre carrière, est-ce que vous avez déjà douté de vous-même?
Oui, je donne un exemple. J'avais monté une expédition à l'Erebus. L'Erebus est un volcan qui est en Antarctique. Donc pour atteindre l'Erebus, il faut traverser la mer de Ross qui touche le continent antarctique. Et en décembre, elle était complètement encombrée de glace, quoi. Et donc, n'y avait pas de passage. Et donc, j'avais un bateau qui s'appelait Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui était taillé pour la glace, je me souviens. Et le commandant, Yann, me dit, mais on ne va pas rentrer là-dedans. J'ai dit, attends, il a été construit pour ça, on y va, quoi. Mais les moteurs, enfin bref, et on avance. Et on n'avançait pas beaucoup. On avançait des fois quelques kilomètres par jour parce que la banquise était compacte. Donc on commençait à recevoir, c'était en 93, on commençait à recevoir quelques images par satellite. Et puis il y en a un qui disait, mais pourquoi on regarde? Pourquoi on s'obstine là-dessus? Moi, j'avais étudié, j'avais lu ce qu'on appelle les pilot charts, c'est des statistiques maritimes. Et donc, ça s'ouvre sur la mer de Ross à 180 sud. J'ai dit, il faut rester là où ça... Voilà. Et donc, mais non, on devrait aller là. Il y avait une équipe de tournage qui était à bord. Le producteur m'appelle pour me dire, écoute, je vois que vous n'allez pas y arriver. Moi, ça me coûte un bras. Il y a deux caméramans, un ingénieur du son, machin et tout. Fait demi-tour, je vois pas. Voilà. Et puis, il y a une scission qui se fait au sein de l'équipe. Il y a une partie qui dit, mais oui, on va se barrer. Ceux qui ne résistent pas à la tentation de l'abandon. Et voilà. Et je me souviens qu'à ce moment-là, moi-même, j'ai des doutes. Mais je suis le chef d'expédition, je l'ai inventé, et on ne va pas s'arrêter, on n'est pas au bout, on ne va pas s'arrêter tant que... Voilà. Et c'est là, je me souviens d'avoir déjà utilisé cette expression auprès de ceux qui avaient envie que je fasse demi-tour. Je dis, mais souviens-toi, quand tu es venu me voir, hein, tu te souviens, tu rêvais que d'un truc, je te dise, oui, tu viens avec nous, quoi. Bon, on y est, voyez. Et donc, c'est cette histoire-là de sans arrêt se dire, mais... C'est vrai, prenons le temps du rêve qu'on est en train de construire, quoi. Donc, j'avais douté de moi à un moment donné parce qu'effectivement, il y a une faiblesse qui s'installe. Vous avez une partie de l'équipage, c'est mouvant. Et ceux qui sont contre, à un moment donné, ils arrivent à... Vous voyez, il y a une scission qui se fait. Et je me souviens, par contre, ça s'est quand même ouvert là où c'était décrit. Et là, vous devenez le boss.
Cette histoire est géniale. Remettre du bois dans le jardin, comme vous disiez.
Enfin, oui, les bûches, des fois, elles ne sont pas au fond du jardin.
Mais remettre du bois dans le feu, quoi, de la passion.
Tout à
Donc
fait.
En fait, ça ne se fait pas tout seul, quoi, finalement.
Jamais. Vous savez, quand vous avez une idée qui vous tient à cœur, tout d'un coup, ce sentiment que ça y est, hein, vous avez trouvé la voie, mais il faut se dire, à partir de ce moment-là, et je le dis d'expérience, il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance. Vous voyez, c'est la base de tout, quoi. C'est pas l'idée qui suffit en elle-même, quoi. Il faut l'alimenter.
À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit « je veux être un explorateur » ? C'est quand même fou. Et puis on parlait juste avant de commencer cette interview justement de vos premières études. Racontez-moi, qu'est-ce qui a été ce déclic où vous vous êtes dit « je veux me lancer dans des aventures folles ».
Ah, oui. Alors c'est vrai que moi j'avais pas les notes pour entrer en sixième, vous voyez. Donc j'étais forcément... J'étais pas orienté vers le collège et après le lycée. On faisait une formation professionnelle. Et donc, moi, je voulais faire menuisier depuis toujours. Et il n'y avait pas de place en menuiserie dans le collège. Donc, on m'a mis ajustage sur métaux. Donc, j'ai fait une formation de tourneur-fraiseur. Moi, je suis né à la campagne. Et on avait à la maison, je ne sais pas, mon père était tailleur d'habits, un petit village, 800 habitants. Et ma mère vendait dans un magasin. Et on avait un magazine qui s'appelait L'Illustration. L'Illustration, c'est un magazine qu'on trouve chez les antiquaires aujourd'hui. C'est une sorte de National Geographic français du temps où la France avait un empire colossal dans le monde entier. Et envoyé dans le monde, partout, il y avait des bateaux qui partaient, envoyé des caravanes de porteurs. Et moi, je m'imaginais faire partie de ces départs. En fait, je vivais à la campagne. C'était un tout petit village. Il y avait des champs derrière chez moi. J'aimais vivre dehors. J'avais des oiseaux apprivoisés. J'avais des tourterelles des bois, des pies. Moi, j'aimais cette vie. Et donc, cette illustration de me montrer un chemin. Voyez, et à 14 ans, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. 14 ans. Pourquoi en hiver? Je ne sais pas. Mais j'aimais cette projection. Mes idoles, ils étaient alpinistes. C'est Walter Bonatti, Lionel Terray, c'est des alpinistes qui sont morts. Mais j'avais une admiration pour ces engagements-là, pour faire des expéditions, vous voyez. Et donc, je reviens à ma formation professionnelle. Je suis tourneur-fraiseur. Et là, ça m'intéresse. Je suis vraiment un ambassadeur de la formation professionnelle. Moi, C'est la formation professionnelle. Vous voyez, on est jugé sur ce qu'on fait avec ses 10 doigts. Et donc, ça m'a plu et je me suis intéressé. J'avais 13 ans et demi, on avait 40 heures par semaine, on avait 16 heures d'atelier, puis de la technologie de construction, technologie des matériaux, du dessin industriel, et j'aimais ça. Et si bien, après le CAP, on passait le brevet, puis la prof de maths, Suzanne Pujol, c'est inoubliable, a dit, on était deux ou trois comme ça, là. Mais ces gars, ils peuvent passer le bac. Et donc, au lieu d'aller au brevet, on a été au bac. Donc, je suis rentré en seconde d'un bac qui s'appelait TM, qui avait été créé technique mathématique. Voilà. Et donc, le bac, non, mais qu'est-ce que je vais faire avec le bac? Ça, c'était, je savais absolument pas ce que j'allais faire avec le bac. Alors, qu'est-ce que je fais? Peut-être ingénieur, architecte. Et donc, j'ai décidé de faire médecine à une époque où c'était quand même un peu moins compliqué qu'aujourd'hui, vous voyez, pour entrer en médecine.
Ouais, mais vous aviez personne dans votre famille qui était médecin.
Ah non, non. Et même, c'était un problème pour mon père. Mon père ne voyait pas comment, dans la famille, on pouvait caser un médecin, sociologiquement, vous voyez.
Ah bon?
Ah oui, oui, oui.
Et ça, c'est quand même plutôt pratique d'avoir un médecin dans sa famille.
Oui, mais bon, dans le village, 800 habitants, il y avait le notaire et le docteur, vous voyez ce que je veux dire. Et lui, il était l'artisan. Et donc, vous voyez pas, et il n'aimait pas trop cette idée quand j'ai dit je vais faire médecine. Si bien qu'il allait chercher tout le temps, il était tailleur d'habits, vous voyez. Et il avait un client qui était avocat, l'avocat, un maître. Et c'était la fin un peu du... C'était la fin du tailleur et le début du prêt-à-porter. Donc, il avait une clientèle exigeante. Un avocat avec qui discute, et il lui dit, mon fils veut faire médecine. Maître, mon fils veut faire médecine. Et maître lui répond, est-ce qu'il a fait du latin et du grec? Il dit, non, il était au collège technique. Alors, et l'avocat lui dit, il n'y arrivera jamais. Et mon père... Mon père me dit, voilà ce que m'a dit maître. Voilà. Et donc, moi, ça m'était égal, je voulais faire ça.
Ça vous faisait pas peur de pas écouter les gens, notamment, enfin, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est enfant, d'écouter ses parents, d'écouter ses pères, et c'est dur de résister à la tentation de pas les écouter.
Oui, oui, mais moi j'ai toujours été en quête d'autonomie. J'ai toujours fait de mes 10 doigts, vous voyez, et c'est quelque chose qui m'a même, vous voyez, jusqu'à 40 ans, plus, même plus que ça, j'ai toujours acheté des voitures d'occasion que je réparais moi-même. J'ai jamais investi, vous voyez, cette table sur laquelle nous sommes, là, c'est moi qui l'ai faite, chez un charpentier, bien sûr, parce qu'il faut des gros outils, mais voilà, et donc j'ai toujours aimé travailler mes doigts. Il y a quelque chose qui me rassurait toujours, c'était l'idée qu'avec mes 10 doigts, je pouvais faire une cabane, avoir un jardin et des poules et voir venir. C'est toujours, j'ai été cette sécurité en moi de pouvoir me débrouiller. Et quand je décide de faire médecine, c'est moi qui l'ai décidé, vous voyez. Et je voyais bien que mon père, mais je l'ai rassuré. Je lui ai dit, papa, ne te fais pas du souci pour l'argent. Je me débrouillerai, quoi. Vous voyez. Et donc, c'est un peu ça, peut-être aussi, qui l'inquiétait. Voilà. Donc, ça ne m'a pas du tout dérouté du chemin que j'avais choisi. Et donc, j'ai fait médecine. Là, en médecine, à la fin de la deuxième année, je vais voir un chirurgien chef de clinique à l'hôpital en lui disant, est-ce que je peux venir voir? C'était les vacances, vous voyez. Il m'a dit, venez. Tous les jours, j'étais là, juin, juillet. Et un jour est arrivé une urgence de la main. Et l'interne était parti dans le service. Et le chef de clinique, le docteur Guibé, qui dit à la chef du bloc, Madame Massat, c'est des choses qui sont tellement fortes pour moi. Habillez Étienne. Vous voyez, habille Étienne. Ça, c'est un grand moment de ma vie. Parce qu'en chirurgie, vous vous lavez les mains, vous voyez, puis vous mettez comme ça, on vous habille, on ne touche pas les vêtements en stérile. Et là, je retrouve en médecine l'usage de mes 10 doigts, vous voyez, parce qu'une intervention, c'est une opération à quatre mains. Il y a le chirurgien qui fait l'essentiel, et puis vous l'aidez, vous épongez, vous tirez un écarteur, etc., vous tenez une pince. Voilà. Et là, je me dis, mais c'est ça, je vais faire chirurgien, vous voyez. Donc, j'ai passé le concours d'internat. Puis j'étais interne avec une passion pour la chirurgie orthopédique, bien sûr, puisque c'est la mécanique. Vous voyez, l'orthopédie, c'est les articulations, c'est les muscles, on met des clous, des plaques, des vis, tout ça, c'était quelque chose qui m'allait bien. Mais voilà, on revient à ses rêves d'enfant de faire des expéditions. Et là, je me dis, j'ai une expérience de médecine, de la chirurgie, de l'urgence, je pourrais proposer mes services pour faire médecin d'expédition. Et c'est comme ça que je suis entré dans ce milieu des expéditions à travers mon métier qui était la médecine. Et c'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, que j'étais avec traversé l'Atlantique avec le père Jaouen et ses enfants en difficulté, que j'ai fait plein de choses, la Patagonie. Enfin voilà, pendant 12 ans, j'ai fait ça, vous voyez, des expéditions. Et c'était la médecine qui m'a permis d'entrer dans ce milieu. Je n'avais pas de compétences particulières d'alpiniste ni de marin. Je suis originaire du Tarn, c'est un pays collineux agricole. Et voilà, et donc j'ai réalisé ça jusqu'au jour où effectivement... vous voyez, j'avais abandonné la chirurgie qui reste une de mes frustrations. Je dois l'avouer, j'adore toujours... Et je vous fais un... Vous voyez, j'adore découper un poulet.
Oui.
Je le découpe avant de le faire cuire, vous voyez. Et je fais petite opération. Je le fais souvent. On passe par les aponévroses. Je fais des réinsertions ligamentaires. J'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Donc, ça reste quelque chose que... Mais bon, on ne peut pas tout faire, vous voyez. Et donc, cette médecine qui m'a entraîné vers ce milieu des expéditions.
Je suis assez marquée dans votre discours par le fait que finalement, vous avez vraiment, à chaque fois, fait énormément de choix pour inventer votre vie. Mmh. Et vous n'êtes pas du tout laissé porter d'une certaine manière. Oui. Vous avez d'abord fait le choix de tourneur-fraiseur, ensuite la médecine, oui. Ensuite la médecine au service de l'exploration, oui. Ensuite, après vous-même, vos propres explorations.
Oui.
C'est quelque chose qui était naturel pour vous, justement, de prendre des décisions sur votre vie. Beaucoup de gens se posent plein de questions et ne savent pas ce qu'ils veulent. Et vous, vous faites des choix durs, en plus.
Oui, j'en conclus qu'il faut savoir abandonner ce qu'on a acquis pour de nouvelles explorations, vous voyez. Mais il n'y a pas de réelle frontière. Je n'ai pas eu le sentiment de passer une frontière à sens unique. Ce sont les expéditions, par contre, c'est cette envie, et je me rends compte que c'était quelque chose qui était structurant. Vous voyez, quand... avant de partir faire la course autour du monde avec Tabarly, j'étais revenu à la fac. J'avais un prof qui m'avait mis assistant d'université. Avec lui, j'étais assistant d'université. Et je reçois un courrier de Tabarly que j'avais rencontré un an avant dans ma boîte aux lettres. Une lettre de Tabarly.
Pas mal.
Il écrivait tout petit, Eric. Et alors, il m'invitait à partir pour un an faire la course autour du monde et des régates un peu partout. Et donc, je suis allé voir mon patron, donc. Il aimait la mer. J'ai dit, regardez ce que j'ai reçu. Oh, une lettre de Tabarly. Ben, c'était le pape, quoi. Hein, le pape de la régate. Et il me dit, ah oh là là, c'est tentant. Il me dit, moi, je crois que à votre place, j'irai. Je lui dis, c'est ce que je suis venu vous dire. Je vais vous dire que je m'en vais. Et là, il y a un instant, si vous voulez, quand je vois, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant, ce qui paraît que tu prends. Vous voyez, j'étais salarié. C'était la première. Non, j'étais, quand j'étais interne, j'étais salarié. J'avais abandonné, puis j'étais revenu. Ça m'a pas. J'étais excité, même à l'idée, tout d'un coup, de tourner une page, vous voyez. Donc, ça m'a. Il y a d'autres choses comme ça que vous soulevez qui me reviennent, là. Le président Mitterrand, un jour. Mon assistante me dit le président de la République veut s'entretenir avec toi. Ah. Il donne deux dates de 18h30 à 19h. Je prends la première. Il me propose, ça m'allait bien. Donc je vais à l'Élysée et donc en tête à tête avec le président de la République, on discute.
Bon.
Et donc en fait, il avait une idée aussi derrière la tête et donc il voulait m'accompagner dans un parcours législatif et me proposer le poste de ministre de l'Environnement. Et donc, écoute, ça faisait 2 ans que je travaillais sur une expédition qui s'appelle l'Erebus, qui est un volcan en Antarctique. Et je lui dis, président, je pars à l'Erebus. Et il me dit, c'est quoi l'Erebus? Et je dis, c'est un volcan en Antarctique. Et il me regarde comme ça. Je me souviens bien, il a penché la tête quand même. Hein? Il me dit, là, je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Et donc, on n'a pas poté encore un peu.
Il avait de la répartie.
Et là, je me suis dit, j'avais 45 ans peut-être. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Vous voyez, qu'est-ce que je viens de faire? Et en fait, j'ai appelé Arun Taziev, c'était un volcanologue, qui avait été secrétaire d'État aux catastrophes naturelles majeures. C'était un homme de terrain, je le connaissais bien. Je lui ai dit, voilà ce qui m'arrive, quoi. Il me dit, ne t'inquiète pas, tu as bien fait. On n'est pas fait pour ça. Il me disait, On n'est pas fait pour ça. Moi, je l'ai été. Tu n'es pas fait pour ça. Il me dit, ne regrette rien. Voilà, donc ce sont de temps en temps, j'ai eu des choix comme ça. Mais
vous avez été obligé de fermer des portes, malgré tout.
Oui, fermer. Oui, ça c'est sûr. Fermer des portes. Mais continuer sur ce choix d'expédition, vous voyez, c'est très structurant pour moi. Une expédition, c'est quoi? C'est un lieu difficile d'accès. Enfin, à part les expéditions que j'ai faites de le pôle Nord, enfin, ou avant, traverser l'Antarctique avec des chiens. Après, j'ai monté mes propres expéditions un peu plus avec des vocations pédagogiques et scientifiques. C'est un lieu difficile d'accès où il va falloir construire quelque chose pour y aller. J'adore la construction. Dessiner, vous voyez. Oui, voilà. Et puis moi, une fois que tout ça, c'est la montée, c'est passionnant de monter une expédition. C'est un peu, vous êtes avec une table de mixage, vous voyez. Une expédition, c'est la technique, c'est les ronds, c'est le financement, les autorisations, etc. Tout ça, donc il faut sans arrêt faire en sorte que tout ça avance, créer une équipe, enrichir. Il faut avancer. Quand vous avez une idée, comme ça, il faut sortir les antennes, quoi. Vous voyez ? Pour capter tout ce qui peut enrichir le sujet. Des fois, c'est un film que vous allez voir et vous sortez de là. Vous voyez ce que je veux dire ? Un bon film, vous sortez, vous partez en courant parce que vous avez envie de vous remettre à ce que vous avez laissé tellement ça vous a dynamisé, vous voyez ? Et bien, c'est ça, c'est sortir les antennes et capter des trucs qui enrichissent, qui construisent. Et une fois qu'on l'a fait comme ça, c'est un métier d'entrepreneur, vous voyez ? Et après, ce que j'adore, c'est être le maillon pédagogique. Raconter l'histoire, faire en sorte que... Vous savez, quand vous êtes sur le terrain, vous avez une légitimité. Vous qui êtes allé là-bas, vous qui avez vu. Mmh. Et ça, il faut en profiter pour passer de l'information, la simplifier, passer au tamis des sujets complexes pour trouver quelques pépites qui résument bien le sujet sans le dénaturer, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime. Vous voyez, donc c'est une grosse entreprise, une expédition.
C'est une énorme entreprise. Et alors d'ailleurs, j'ai vu, peut-être que je me suis trompée, mais en faisant mes petites recherches sur vous, que vous étiez encore en train de nous faire le coup et que vous êtes en train de nous fomenter encore une expédition.
Oui.
J'avais lu que c'était initialement pour 2023. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Oui. C'est 2023, fin 2023, début 2024. Je pense qu'on va tenir cette date-là. Ça fait longtemps. Ça va faire 12 ans que je travaille dessus. En fait,
qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 12 ans en plus que vous travaillez
dessus ? Je travaille dessus, oui. Oui, parce que c'est une cathédrale. Hein. C'est la mienne, enfin ma cathédrale, dans les projets que j'ai pu faire. J'ai construit un bateau qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui s'appelle Antarctica, pour étudier l'océan Arctique, l'océan qui est au nord, au pôle nord. C'est un océan qui est gelé. Donc, pour rester sur cet océan, il faut avoir un bateau qui est capable de résister à l'écrasement par la banquise quand elle dérive, etc. Et donc ce bateau, il a été fait pour étudier l'océan Arctique, il continue, s'appelle Tara, il fait des programmes merveilleux de recherche et pédagogique. Et puis il y a un autre océan qui est difficile d'accès, c'est au sud. L'océan Austral, c'est l'océan qui entoure l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent du pôle sud, c'est un continent de glace. Et tout autour, vous avez un océan qui est alimenté par des vents de surface, qui s'appellent les 50e hurlants. Vous voyez ces zones-là qui sont très ventées, que les marins du Vendée Globe fréquentent tous les 4 ans. Ils nous en parlent de ces zones très ventées, agitées. Et bien, cet océan, il est très peu visité par les scientifiques en période d'été, de décembre à janvier, février. Mais c'est loin, c'est coûteux, il n'y en a pas beaucoup. Et les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. On a besoin de s'installer sur cet océan. Ça, c'était une équation qui commençait à m'intéresser. Quel type de vaisseau permet de séjourner dans les 50e hurlants sans arrêt, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort, et puis qu'il faut qu'il y ait un minimum d'autonomie parce que c'est loin de tout, vous voyez.
Oui. Voilà.
Et donc, je travaille sur quelque chose que j'aime bien dire, un navire vertical. C'est un grand flotteur vertical, en fait, qui fait 100 mètres de haut. Hors tout, ça fait 100 mètres. Il y a 80 mètres sous l'eau. Un peu comme ce micro.
Il est très long et très lourd.
Un peu comme ce micro, il descend profond.
Ouais.
Et vous êtes pris dans des eaux stables. Ce qui bouge en mer, c'est la surface, c'est là où le vent, la zone de conflit, où le vent et la mer se rencontrent.
Donc ça le stabilise.
Il est stabilisé parce qu'il est ancré, il descend dans des eaux profondes qui sont stables. Et à la surface, on a un treillis, c'est-à-dire la mer nous passe à travers. Donc on a fait des essais de maquettes à l'école centrale de Nantes, à Ifremer à Brest. Et donc ce vaisseau, il a été dessiné. testée par des multitudes de calculateurs et de maquettes. Et donc, il va être construit. C'est Ifremer qui est maître d'ouvrage. Ça, c'est la partie investissement. Et moi, j'ai la responsabilité du financement de l'exploitation, c'est-à-dire 3 années de campagne océanographique autour de ce secteur, avec des personnes qui seront relayées en mer. Donc, c'est un gros, gros projet. Pourquoi si longtemps? Parce que, pourquoi 12 années aujourd'hui de travail? D'abord, ça n'existe pas. Il a fallu... Donc, l'idée a été enrichie par un vaisseau sur ce principe-là qui existe aux États-Unis, à San Diego, en Californie, et qui était un bateau qui avait été construit par l'US Navy, par les sous-mariniers, pour écouter les sous-marins dans le Pacifique pendant la guerre froide. Parce que ça n'a pas de moteur, vous voyez. Ça dérive avec le courant. C'est silencieux. Mmh. Donc, ils avaient mis des hydrophones et ils écoutaient les sous-marins. Donc, j'ai passé 2 ans aux États-Unis pour travailler au Scripps avec les Américains, qui ont été très sympas. Ils m'ont vu être là. C'est vrai, parce que je me souviens, le chef, c'est des trucs qui appartenaient aux sous-mariniers, donc c'est ultra... Voyez, bah, même si c'était vieux.
Oui, on n'en parle pas trop en général.
Il est vieux, vous voyez, il avait 60 ans. Et donc, à la 3e réunion, il y en a un qui dit, on en a vu du monde venir de tous les pays. Il me dit, mais vous, j'ai l'impression. Il dit, je suis venu m'installer ici pour le faire. Et donc, voilà, on est parti en famille.
Il a compris que vous n'alliez pas le lâcher tant que vous n'aviez pas vos informations.
Et donc, petit à petit, j'ai eu accès aux plans que je scannais avec leur autorisation et que j'envoyais au bureau d'études à Lorient, ChipST. C'est comme ça qu'on a construit petit à petit. Ça, c'est la partie technologique qui prend quand même du temps. Et après, il y a la partie financière. C'est ça qui est le plus usant. C'est aussi ingrat que l'autostop, vous savez. Vous voyez, vous êtes sur le bord de la route, vous êtes quelqu'un de bien. Hein. Et
vous demandez de l'aide.
Vous allez voir votre mamie. Vous voyez, vous avez une bonne raison d'être là, mais vous avez les voitures qui passent. On détourne du regard parce qu'on n'ose pas vous regarder. Personne ne s'arrête. Et de temps en temps, il y en a qui s'arrêtent, heureusement. Et donc ça, c'est une partie qui fait partie, je dirais, de l'usure psychologique.
Ouais.
Vous voyez, elle est inévitable, quoi. Et maintenant, on est prêt. Ça va être construit bientôt et on part en 2024.
Donc le projet va voir le jour, enfin.
Enfin, il va voir le jour. Vous voyez, il devrait normalement se terminer en 2026, l'année de mes 80 ans. Et vous voyez, il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir.
C'est ça. Se faire plaisir en pleine Antarctique sur un espèce de micro géant enfoncé dans la mer, ça va être quelque chose. Une belle image.
Oui, parce que c'est une telle complexité de monter un projet comme ça. Et puis, ça soulève des jalousies quand vous avez des facilités, de l'argent, il y en a qui machin et tout, donc il faut passer. C'est un rodéo politico-administratif complexe, quoi. Hein. Et voilà, donc c'est la persévérance qui fait que ça va se faire.
Et
d'ailleurs, le navire ravitailleur qui va permettre aux gens d'être renouvelés tous les 2 mois s'appelle Persévérance.
J'ai une question pour vous, Jean-Louis. Là, quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que l'une de vos grandes vertus, c'est la patience. On parle beaucoup de persévérance, mais accepter d'attendre 12 ans, même plus, parce que là, on va attendre 2024,
oui,
pour lancer ce projet, c'est quelque chose quand même.
Alors là, vous avez prononcé un mot, c'est attendre. Il faut être actif.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si je l'attendais.
Il n'allait rien se passer.
Il ne se serait rien passé. Ça va se passer parce que j'ai fait en sorte de faire progresser. Mmh. Et quand je parle de... Je donne un exemple de sortir les antennes. Vous voyez, on capte des trucs. J'en parle. Un jour, il y a un gars qui vient me voir. Il me dit, vous avez entendu parler du calmar colossal? Quoi? Calmar colossal? Il me dit, oui. Moi, j'ai travaillé sur le calmar géant. Hein, c'est quelqu'un qui était à Ifremer.
Ouais.
Sur le calmar géant, dont un Japonais a réussi à faire des images. Il me dit, il existe une espèce qu'on n'a jamais vue, mais on a trouvé des tentacules qu'on a analysés. Et d'un point de vue génétique, ce n'est pas le calmar géant, c'en est un autre. Donc, ils l'ont baptisé le colossal. On ne l'a jamais vu. Et donc là, je suis en train de monter avec une équipe, une fibre optique qui va descendre à 2000 mètres parce qu'il est inféodé aux eaux profondes.
Où est-ce qu'il se trouve, ce calmar colossal?
Autour de l'Antarctique.
Ah oui.
Calmar colossal, il est dans les eaux profondes autour de l'Antarctique. Et donc, comment est-ce qu'on peut le voir? Et donc, il y avait un câble d'un fibre optique qui va descendre à 2000 mètres avec une micro-caméra, une LED fluo pour l'attirer. Et peut-être on va ramener l'image. Je trouve ça absolument génial. Vous voyez,
Mais ça veut dire que vous allez découvrir un animal qu'on n'a jamais vu. Enfin, c'est quand même...
Des morceaux ont été vus, il y en a un qui a été pêché par des pêcheurs de l'Égine qui sont des poissons de fond qui sont en Antarctique. Ça fait ça fait comme le géant, une dizaine de mètres, quoi. C'est une belle, belle bête. Et voilà. Donc, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, des idées comme ça qui viennent. Il faut avancer. Avancer. De temps en temps, il faut faire une pause, mais il faut avancer. Toujours. Je peux parler de plein de choses. Allez, posez-moi des questions.
Non, je vous pose des questions. Mais je suis assez fascinée par cette histoire de calmar colossal. J'étais en train d'essayer de le visualiser. Et je me disais, mon Dieu, quoi. Au-delà de cette expédition, je voulais vous demander, parce qu'on n'en a pas parlé dans le cadre de l'expédition au pôle, mais j'avais lu que vous aviez vous-même découvert finalement votre mission de vie, c'est-à-dire l'expédition et puis les sujets environnementaux, lors de cette première expédition au pôle Nord en 1986. Peut-être que c'est une erreur et que j'ai mal fait mon travail, mais il me semblait que vous aviez eu à ce moment-là, si j'ai bien compris, une sorte de déclic et que vous aviez compris que c'était justement un sujet sur lequel vous vouliez passer votre vie, quoi, finalement.
Alors, le déclic, il est juste après le pôle Nord. Le pôle Nord, c'est 86. J'ai traversé l'Antarctique en 89-90 avec déjà une approche de conservation de ce continent qui est géré par un traité magnifique qui s'appelle le traité de l'Antarctique, signé en 1946, et qui dit que ce continent qui est grand, si géant, ce continent de glace, c'est une terre de science et de paix. Et ça a été signé par l'ensemble des pays du monde en pleine guerre froide, vous voyez. Et en 89, il était question de ratifier un protocole pour avoir la possibilité d'exploiter des richesses en Antarctique. C'était un coup de poignard dans le traité, dans la pureté du traité que tout le monde avait signé. Et donc, cette expédition internationale, elle était organisée avec 6 nationalités, un Américain, un Anglais, un Japonais, un Chinois, donc de Chine populaire, un Russe qui était soviétique et moi. Et j'avais fait une baseline en disant « L'Antarctique n'est pas un continent pour la Terre. » Je recommence. « L'Antarctique n'est pas un continent pour les hommes. » C'est un continent pour la Terre, vous voyez. Nous n'y touchons pas. Laissons à la Terre ce secteur-là qui est protégé par le seul traité que l'on peut inventer parce qu'il n'y a rien, il n'y a que de la glace. Donc, vous voyez, ça n'intéressait pas grand monde. Mais tout d'un coup, l'idée de signer quelque chose où on va s'interdire un potentiel économique peut-être, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'était une première chose qui m'avait intéressé dans la défense d'un territoire. Et en revenant de cette expédition, 90, je fais une conférence avec un glaciologue qui s'appelle Claude Lorius. Claude Lorius est un éminent glaciologue. Claude a aujourd'hui presque 90 ans. C'est lui qui a travaillé avec Jean Jouzel, un de nos météorologues brillants. C'est lui, Claude Lorius, qui a eu l'idée que dans les glaces de l'Antarctique, en faisant des carottages, d'aller chercher profond, là, il y avait des petites bulles d'air emprisonnées qui datent de la formation de cette glace. Vous voyez, et qu'on devait pouvoir trouver l'histoire du climat dans ces carottes de glace. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et effectivement, l'analyse des carottes de glace, des petites bulles d'air emprisonnées dans les carottes de glace, montre effectivement que la Terre, elle a sa vie propre. Vous voyez. Donc moi, j'avais parlé de mes chiens, et Claude Lorius parle de ces carottes de glace. Et il nous montre depuis 1 million d'années, parce qu'ils sont arrivés à faire des trous jusqu'à 3000 mètres dans la glace, ça représente 1 million d'années de l'histoire du climat. Et qu'est-ce qu'il nous montre, Claude Lorius, sur l'écran, plein écran? Cette courbe-là de la température et de la teneur en gaz carbonique. Et c'est là qu'on voit que la Terre a sa vie propre. Des périodes beaucoup plus chaudes, des périodes plus froides, hein, des périodes donc glaciaires, interglaciaires, on les connaît. Ce sont ce qu'on appelle les lois de Milankovitch. C'est parce que la Terre ne tourne pas tout à fait rond. Et tous les 20 000, 40 000 ou 100 000 ans, il y a des modifications de l'inclinaison, si bien qu'il y a des étendues qui se font de glace plus ou moins. Et donc là, on voit que la Terre a sa vie propre. Et Claude nous dit, regardez les 150 dernières années, qu'est-ce qu'on voit tout d'un coup? On voit que la Terre va vers du réchauffement. On est en interglaciaire aujourd'hui. On va encore vers du réchauffement lent. Et il nous dit, regardez, depuis 150 ans, cette montée de la température et de la teneur en gaz carbonique. Il dit, elle est là, la responsabilité humaine sur le réchauffement climatique. Et il a une phrase et il dit, le processus est enclenché. Dans cette notion de processus est enclenché, ça veut dire que l'inertie que représente la régulation du climat, elle est déjà malmenée, vous voyez. Et à partir de ce moment-là, effectivement, je me suis intéressé de près à ces questions climatiques. Bon.
C'est pas ce sujet.
Oui, ça c'est un énorme sujet, très très gros sujet, les questions climatiques. Et donc, on a tendance à simplifier un petit peu la solution en disant comme si c'était on et off, vous voyez, comme si papa à l'Élysée ou Angela Merkel ou je ne sais pas, ou le pape pouvait, par une baguette magique, faire en sorte que tout d'un coup le monde soit merveilleux, il n'y ait plus de carbone, on ne ferait qu'avec du vent, du soleil, vous voyez. Et non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Quand on sait qu'aujourd'hui 80% de l'énergie consommée à l'échelle de l'humanité est d'origine fossile encore, donc malheureusement beaucoup du charbon, il est là le problème, quoi, maximum. Voilà, donc c'est pas d'un goût de baguette magique. La Terre, elle a une fièvre chronique, une fébricule. Un degré, elle a pris en un siècle. Elle a 38, vous voyez, si on fait par exemple par rapport à la température du corps. Et on est déjà dans les complications. Un degré de plus, 39, on va vers des complications. Donc la fièvre chronique, effectivement, elle demande un traitement d'urgence qu'il faut mettre immédiatement à l'œuvre pour limiter cette montée en température, quoi.
Mais qui ne se fera pas avec un bout de sparadrap, quoi.
Non, il y a deux choses sur lesquelles il faut s'atteler. Si vous voulez, la solution, elle est à la fois comportementale, on le dit assez, d'être économe en énergie, isoler l'habitat, faites attention à vos consommations, etc. Donc c'est comportemental, on le sait, voyez. Et elle est technologique. Trouver des ressources qui nous permettront d'avoir assez d'énergie décarbonée. Voilà, vous voyez. Et donc, dès qu'on parle de ça, effectivement, l'éolien, le solaire, les renouvelables pourront satisfaire les besoins domestiques d'une population éduquée à la préciosité de l'énergie.
Et puis d'une population grandissante, fortement grandissante.
Vous voulez dire en démographie ?
Oui.
Oui. Alors, ce qui est grand, vous avez raison, mais ce qui grandit et qui est très pénalisable pour les questions climatiques et d'une manière générale d'équilibre, c'est les classes moyennes. Elles étaient 2 milliards, les classes moyennes, en l'an 2000, on va dire. En 2025-2030, elles seront 5 milliards. Donc la classe moyenne, et ces classes moyennes, elles émergent où ? En Chine, en Inde. Elles nous ont vus à la télévision, elles voient qu'on les...
Elles ont
envie de faire comme nous. Et donc c'est cette transition qu'il faut vite faire de manière... Mais en même temps... ils ont des très très bons ingénieurs, c'est des pays industriels aujourd'hui, industrialisés, et effectivement ils sont assez malins, je dirais, pour aller plus vite que nous, pour faire, j'espère, des solutions qui seront beaucoup plus convenables pour le climat. Mais malheureusement, ils sont encore beaucoup au charbon, et donc ça c'est vraiment un problème, quoi.
Dites-moi, Jean-Louis, vous êtes plutôt de nature optimiste sur ce sujet, ou en tout cas vous êtes plutôt dans l'action ?
On va pas avoir un raz-de-marée qui va tous nous balayer, vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir s'adapter. C'est une évidence, quoi. Comme je vous le disais, la solution, elle est comportementale. On sait ce qu'il faut faire. On a l'intelligence des solutions, vous voyez. On a la conscience de la situation. On a l'intelligence des solutions. Et maintenant, il faudrait avoir l'audace de les mettre en œuvre tout de suite. Et c'est ça qui est important. Donc, moi, je suis d'un naturel optimiste. Je vais vers où il y a naturellement essayer de chercher la solution. Et les solutions, on sait qu'on les a. Sur le papier, on les a. La mise en œuvre est beaucoup plus lente, difficile, on le voit. L'émergence d'une COP26 qui n'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. Mais les gens se réunissent. Ils s'étaient réunis en 2021 avec des espoirs. En 2025, on est un peu loin de 26. La COP26, on est un peu loin de l'espoir. Mais maintenant, ils vont se réunir tous les ans avec les mêmes exigences. Donc, on resserre les mailles du filet. Donc, j'espère que ça va donner des résultats.
Pour terminer, j'ai un petit exercice que j'aime bien qui s'appelle le crible de mon podcast et j'ai, vous verrez, des petites questions personnelles. La première question, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ou une erreur un peu monumentale qui vous a marqué, dont vous pourriez me parler parce qu'elle vous a appris des choses sur vous-même, elle vous a tout simplement appris quelques enseignements.
Un échec. Je pourrais parler d'un échec chronique. Je ne me souviens pas d'un échec brutal, à part quelques déceptions amoureuses, mais ça fait partie du chemin. Mais j'étais en échec scolaire toute ma jeunesse. Ça, c'est un échec chronique, vous voyez. Et vous êtes littéraire. Et dans ce collège technique, tous les lundis, Madame Delmas, qui était professeure de français dans ce collège technique, nous donnait tous les lundis un sujet de dissertation. Vous voyez, j'adorais ça. J'adorais parce qu'en fait, c'était un sujet de réflexion, vous voyez. Et ça me tenait la semaine, j'étais en pension. Donc on avait, j'avais souvent un papier dans la poche et donc j'écrivais quelque chose. Voilà, j'adorais. Voilà. Et donc j'écrivais en fait ce que j'avais envie de dire. Je sais aujourd'hui pourquoi j'avais des notes proches du niveau de la mer, quoi. Vous voyez. C'était en fait parce que d'abord j'étais totalement hors sujet. Je le sais aujourd'hui. D'ailleurs, je suis peut-être hors sujet de temps en temps à vos questions parce que des fois, en fait, enfin, je termine avec Madame Delmas. Donc et donc j'étais en échec toute ma jeunesse, quoi. Vous voyez, toute mon enfance, quoi. En fait, je sais aujourd'hui à travers mes enfants que je suis très dyslexique, dysorthographique, tous les 10. Vous voyez. Qu'on appelle ça aussi TDA, trouble de l'attention, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'était, ça m'a toujours.
Oui, je qui sais à l'époque aujourd'hui. Était quelque chose qui n'était jamais diagnostiqué.
Ah non, ça c'est très mauvais en orthographe, en français nul, et n'a pas, vous voyez, ça n'a pas d'avenir, quoi. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc je voulais faire menuiser, c'était pas, ça m'allait bien. Voilà, c'est cette. Et donc pour revenir à cet échec chronique, sur un sujet que j'aimais bien, la notion de réfléchir. Une parenthèse, quand j'ai passé le bac, on passait deux bacs quand je l'ai passé. On avait toutes les matières pour le premier bac et l'autre. Donc, la note éliminatoire en français, c'était 5. Vous aviez beau avoir 17 en physique et 18 en maths, si vous aviez moins de 5 en français, il fallait redoubler. C'était ma crainte. Les sujets, on nous avait dit, il y avait 3 sujets, je crois une dissertation, une analyse de texte et je ne sais pas quoi d'autre. Il y avait toujours 3 trucs. Surtout, ne prenez pas l'analyse de texte, c'est casse-gueule. Donc, je prends un texte de Pagnol, j'ai eu 14. La meilleure note.
Incroyable.
14. Je crois qu'ils
Pagnol,
se sont trompés.
Ça vous parlait, c'était la nature, ça vous a inspiré.
Pagnol, c'est une littérature populaire que j'adore. J'adore toujours.
Moi aussi, j'adore Pagnol.
Ah oui, il arrive à faire dire des choses qui sont tellement touchantes avec des mots.
Mais c'est pour ça que vous avez été bon, parce que ça vous a touché.
Oui, et donc j'ai eu, voilà. Et cet échec chronique de l'écriture... En fait, aujourd'hui, c'est un plaisir, l'écriture. Ça me demande beaucoup de travail. Mais trouver les mots justes pour écrire une phrase, vous êtes littéraire, vous voyez, tout d'un coup, quand vous écrivez, que vous avez... Moi, j'ai commencé à vouloir écrire en lisant, je ne lis pas beaucoup, parce que quand je lis, à la troisième page, je suis déjà dans mes histoires, vous voyez. Je n'arrive pas à me concentrer.
Ouais.
Et donc, j'ai avec moi des livres de Nicolas Bouvier, par exemple, ou de Christian Bobin, un poète que j'aime beaucoup. Et Christian, c'est Nicolas Bouvier, c'est un écrivain suisse du voyage qui a écrit un livre de chevet que j'ai toujours, L'usage du monde. Et donc, il écrit des choses tout d'un coup en une phrase. Il dit quelque chose que moi, il me fallait 10 lignes pour écrire. Vous voyez, et j'étais loin du cœur, de l'émotion. Et en fait, ce travail de réduction vers l'intensité, la musique des mots, c'est une exploration.
Je dis tout le temps à mes équipes, parce qu'on écrit beaucoup, et moi-même j'écris beaucoup, le secret d'une belle écriture, c'est moins de mots.
Et oui.
Moins de mots.
Et oui, et oui. Et donc, c'est en fait passer au tamis un gros paquet de mots pour en sortir quelques-uns qui sont bien. Et quand vous avez le sens et le son, là, c'est un... Brassens... On allait souvent dans le Tarn, il était souvent dans la voiture. Et quand vous écrivez, que vous écoutez Brassens, à un moment donné, vous dites, ah ouais, ça, s'il a trouvé la pépite. Quoi. Le truc qui fait qu'à un moment donné, avec un ou deux mots, ben voilà. Donc, de cet échec chronique de l'enfance, je suis passé à un plaisir aujourd'hui d'écrire, qui me demande beaucoup de travail, mais de satisfaction aussi. Et j'ai mis du temps à vous répondre.
Mais c'était parfait. On dit moins de mots, mais finalement, j'étais ravie que vous en mettiez un petit peu plus dans ce cas de figure. Comme ça, on est bien rentré dans les détails.
Au montage, vous allez avoir des difficultés.
Je ne monte jamais rien, vous allez voir. Dites-moi, Jean-Louis, est-ce qu'il y a quelque chose, si c'était possible, que vous referiez différemment dans votre vie?
Je vais répondre à la place de quelqu'un d'autre. Paul-Émile Victor, c'était un explorateur polaire français. Et... on est de la même taille, c'est-à-dire pas grand. Et un jour, on était à côté, et il y a quelqu'un qui commence à interroger Paul Émile, qui vous pose la question que vous venez de poser, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez, que vous aimeriez faire, et qui voilà. Et Paul Émile, il dit non, simplement refaire la même chose avec 20 cm de plus. Vous voyez? Et j'ai trouvé ça génial, parce que c'est vrai que Mais maintenant, ça va, je m'y suis habitué, mais je suis un petit, vous voyez. Et donc, on a des difficultés dans la séduction à un certain moment. Mais voilà, c'est passé.
Bah, l'esprit finalement,
oui,
a compensé.
Mais dans la jeunesse, si vous voulez, l'esprit, vous voyez ce que je veux dire.
Voilà. C'est sûr qu'à 18 ans, c'est moins facile.
Il y en a même qui me disait, j'aimerais bien, mais t'es trop petit. Vous voyez.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, ouais, on entend des choses comme ça.
Écoutez.
Donc, refaire la même chose comme Paul Émile avait fait.
Mais avec 20 ou 30 centimètres de plus.
Oh, 30,
parfait.
Voilà, le
ça serait beaucoup. deux dernières questions pour vous. Est-ce qu'il y a une citation qui vous plaît particulièrement, qui vous porte?
Oui. Une citation de Christian Bobin. Il y a dans le ciel, pour chacun d'entre nous, une étoile suffisamment éloignée pour que nos erreurs ne la ternissent jamais.
Très beau.
C'est un refuge cosmique, si vous voulez, où vous savez que vous êtes souverain, autonome. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez cette étoile-là qui est la vôtre, qui vous appartient et qui vous pardonne tout. Voilà. Et donc, de temps en temps, je me mets dans ce refuge cosmique.
Et ma dernière question pour vous, c'est tout simplement une question sur les livres. Alors, vous en avez justement évoqué. Est-ce qu'il y a un livre ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué, qui sont des lectures de chevet, qui sont des lectures que vous faites régulièrement dans lesquelles vous vous retrouvez?
Oui, j'ai évoqué deux auteurs, donc Nicolas Bouvier, L'usage du monde. Je vais aller le chercher, je lis une phrase que je vais vous lire de lui, je vais aller le chercher,
ouais.
Parce que je la lis souvent le soir. De Nicolas Bouvier, Christian Bobin, que je viens de
le
citer,
fameux.
Jean-Henri Fabre. Jean-Henri Fabre, c'est un naturaliste de 1870 jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est mon professeur de pédagogie naturelle. C'est un homme, un observateur de la nature. C'est un type qui a passé son temps à regarder comment les choses se construisent dans la nature, les relations avec les insectes. C'est un entomologiste et qui a écrit des choses d'une simplicité. Il fait vivre la nature. Et aujourd'hui encore, il a l'Armas, c'est une maison qu'il avait achetée, qui est dans le Vaucluse, qui est devenue un peu son musée, qui est visitée par des Japonais. Parce que la façon dont il écrit correspond à quelque chose que les Japonais aiment. C'est d'une simplicité, d'une richesse. Et donc, il m'a beaucoup inspiré pour faire de la pédagogie sur la nature. Mais je vais chercher...
L'usage du monde.
Ce jour-là, donc c'est la fin d'un très long voyage de plusieurs années. Ce jour-là, j'ai bien cru tenir quelque chose et que ma vie s'en trouverait changée. Mais rien de cette nature n'est définitivement acquis. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs et puis se retire et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr.
Comme vous dites.
Ouais.
Et ça, vous le lisez régulièrement.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Eh bien, j'ai des doutes moi-même. J'ai des doutes sur l'existence. J'ai des doutes. J'essaye de me rapprocher le plus possible du ressenti des choses, vous voyez. Et je trouve que cette phrase, elle vous interroge votre insuffisance centrale de l'âme que l'on doit côtoyer. Je suis pareil que tout le monde. J'ai des moments de déprime. Je ne suis pas tous les matins en forme. Des fois, je n'ai pas envie. Puis ça me donne une inquiétude de temps en temps. Je dis, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que je vais rattraper cette bonne humeur? Des choses comme ça. Et je trouve qu'il nous parle bien de tout ça, qu'il faut côtoyer, il faut travailler avec soi-même. Le temps passé avec soi, c'est du temps constructif, effectivement, pour son existence. Et parmi les énigmes, Dieu, l'existence de Dieu, c'est quelque chose qui est dans la tête de tout le monde, quoi. Hein. C'est comme un refuge, comme quelqu'un qui est là, que l'on peut appeler quand on en a besoin, en général. Et je dis tout le temps qu'on aurait tort de se priver de l'idée de Dieu. Je ne parle pas de religion, mais de l'idée de Dieu, de quelque chose qui nous dépasse complètement. Et ce qui me fait dire ça, c'est l'énigme du vivant. Vous voyez, on a toujours essayé, à partir de la matière minérale, de mettre ça dans un tube, je ne sais pas, tout ce dont on est constitué, du phosphore, du calcium, du magnésium, tout, vous voyez, dans un tube à essai, puis faire un arc électrique, une chaleur extrême, refaire le Big Bang, vous voyez, dans un tube à essai, puis on regarde au fond, et on a fait des protéines déjà. Mais jamais une bête au fond qui commence à bouger n'est apparue. La vie n'est jamais apparue, vous voyez, on ne sait pas faire la vie. Alors je dis ça de temps en temps, quand la question m'est posée, on ne crée pas la vie, on l'emprunte, vous voyez. Et donc, quand vous dites on ne crée pas la vie à une maman qui a fait des bébés, on l'emprunte parce que c'est un spermatozoïde vivant qui a rencontré déjà un ovocyte vivant. Vous voyez, ce sont des cellules déjà vivantes et déjà très, 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 très élaborées, vous voyez, qui se sont rencontrées. Mais en amont de tout ça, comment, à un moment donné, le minéral est devenu une matière vivante? Rien que ça, de temps en temps, quand je me...
Rien que d'y penser, c'est un peu fou. Enfin, c'est un peu fou quand même.
C'est un peu fou et en même temps, ça nous ramène à une juste mesure, quoi. Vous voyez, quand on se prend un peu la tête, quoi, ça fait du bien de voir qu'effectivement, parce qu'on est d'une complexité, la matière vivante est d'une complexité, c'est incroyable. Voilà. Donc ça, c'est léger, le refuge cosmique de Bobin, et puis ce mystère de la vie qui est quelque chose... Vous voyez, c'est un peu comme si on décidait, on s'allonge là par terre, on dit on va partir dans le cosmos. Hein, on part. Et on part. On sort de... On n'a pas fait grand-chose, on a croisé Thomas Pesquet, mais il n'est pas loin. Il est à 400 kilomètres, là.
On le salue.
Il est tout près, on le salue. Et nous, on continue, vous voyez, on sort de la galaxie, puis on arrive à Bételgeuse, qui est une galaxie qui est tellement loin, elle est pas loin. Et on continue. Mais où ça s'arrête? Vous voyez? C'est absolument... voilà. Et donc, ce sont ces dimensions-là qui me ramènent tout d'un coup à ce petit être que l'on est. Et donc, n'oublions pas d'en profiter, quoi.
Je crois que ce sont de bons mots de la fin. Je vous remercie mille fois pour votre temps. Si jamais on veut vous retrouver, si on veut découvrir vos livres, bon, les livres, je les mettrai dans les notes, donc ça, c'est facile. Mais sinon, si on veut vous retrouver, suivre vos aventures nombreuses, vous soutenir pour le projet aussi, peut-être de 2024, pourquoi pas. Ça se passe sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, majoritairement. Et le dernier, c'est
Le dernier, c'est Explorateur d'océan. C'est en fait ma découverte de la mer et puis toutes les navigations que j'ai faites, c'est la découverte des océans, de la Terre, à travers les expéditions que j'ai pu faire. Et c'est le dernier, Explorateur d'océan. Vous voyez, je suis né dans le Tarn, qui est un département extrêmement agricole, quoi. Hein.
Pas très marin, effectivement.
Pas du tout marin. mais un jour, j'ai découvert la mer. D'abord, la plage imbécile, que j'appelle. Je déteste la plage. Et j'aimais pas la mer parce que c'était la baignade, j'aime pas me baigner. Mais tout d'un coup, la mer m'est apparue comme une immensité qui vous ouvrait sur le monde. Et là, je me suis dit, mais là, c'est un parcours, voilà. Et donc, et en plus de construire un bateau, de le dessiner, tout ça, donc j'ai retrouvé, si vous voulez, cette envie du voyage. Vous voyez, ça, c'est mon bureau, là, à la campagne.
Ah oui, c'est ça, c'est dans le Tarn, justement.
Ça, c'est dans le Tarn, donc ça, c'est moi qui l'ai construite. Enfin, pour le gros œuvre, j'ai un copain qui vient m'aider à les transporter, à les mettre, quoi. Mais le toit est végétalisé, vous voyez, il y a... Mon idée, c'était voir sans être vu, voyez. Et donc, elle est sur pilotis, elle est dans les bois, sur un bois en pente et sur pilotis. Et là, devant, j'ai une immensité qui s'ouvre. Et c'est mon port autonome, voyez, c'est là où je relâche. Et j'ai mis du temps à trouver le coin où je savais que j'allais être bien. Vous savez, quand vous voyagez, hein, au bout d'un moment, vous dites... où est-ce que je pourrais enfin trouver mon havre de paix où je suis sûr que là, vous voyez, j'ai mis du temps, j'en ai vu partout dans le monde. Et un jour, en rentrant d'une expédition, de la traversée de l'Antarctique, j'allais voir mes parents parce que je finais pas loin de là. Je voyais, et puis j'avais été voir le maire, il dit, t'as pas un coin tranquille, mais il y a une maison là-haut, paumée. Et je suis allé, je l'ai acheté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là? Vous voyez,
explorateur de l'Antarctique dans le Tarn.
Mais plus que ça, j'avais vu plein de choses. J'avais passé du temps en Polynésie. Et là, je viens me foutre là.
On n'est jamais mieux qu'à la maison.
Et en fait, oui, je sais que moi, c'est racine, oui, enracinement, non. Voilà quoi. Et c'est nourrissant. Je sais que je connais tout là-bas, vous voyez. Donc, je sais que je peux m'y mettre en me mettant dans un coin, là, m'y transporter.
Et vous reposer. Merci Jean-Louis.
Avec plaisir.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.